À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
De la belle visite à deux, c'est mieux aujourd'hui, Étienne Drapeau. Salut!
Salut!
Comment vas-tu?
Le bonheur total.
T'as pas le choix, ton livre s'appelle comme ça.
Pas le choix, je veux un livre qui s'appelle « Faire le choix du bonheur ». Quand on demande, ça va toujours bien, le bonheur total. Je fais de la publicité.
On a entendu « Le pont », qui est la chanson-titre de ton album, ton huitième album en carrière, sur lequel tu as travaillé avec Claude Bégin.
Ouais, ouais, ouais.
Tu voulais ça, ça fait longtemps qu'on se connaît, on en a parlé déjà, il y a une scission dans l'industrie, on a l'impression, en fait, qu'il y a une gang, puis une autre gang, puis qu'ils se mêlent pas, c'est pas toujours vrai, souvent ils font des projets ensemble, mais dans l'œil du public, peut-être, qu'on a l'impression que c'est séparé. Toi, t'as voulu défaire ça.
Oui, ben moi, c'est ce que j'appelle les deux solitudes. Dans ma chanson, tout au fond de nos deux solitudes, tu sais, on est comme un peu chacun de notre bord. Puis je trouve que depuis la dernière année ou depuis un petit moment, dans la société en général, à la base, le pont, c'était ça, c'était la séparation entre les gens un peu plus dans la pop, un peu plus dans le qui font de la musique plus monsieur, madame, tout le monde, et cette espèce de crowd-là un peu plus élitiste, un peu plus à gauche, un peu plus niché, intellectuel, puis je trouvais qu'on se mélangeait pas, puis que, tu sais, on pouvait pas aller d'un univers à l'autre, et je trouve en plus que maintenant, dans la société en général, je sais pas si c'est les résultats de la pandémie, de la santé mentale qui décline, mais depuis un petit bout, on est tellement polarisé, on est tellement divisé dans la société. On n'a jamais omis autant les gens dans des cases. Hein. T'es noir ou t'es blanc, t'es un homme, t'es une femme, t'es gay, t'es hétéro, les genres, ici et ça. Donc, depuis un moment, là, je trouve qu'on vit dans des univers tellement différents, puis il faut créer des ponts. Il faut arrêter de faire des barrières, des frontières, autant que les gens, les styles musicaux, puis il faut essayer de tout se rejoindre un peu dans le milieu là, là-dedans. Là.
Comment c'est arrivé la connexion avec Claude Bégin?
Claude, j'ai été le voir dans un téléthon il y a 5-6 ans. Je trouvais que c'était une bébête rare. Je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de monde comme lui au Québec. Moi, je me disais, un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, on se connaît pas vraiment, mais j'ai dit, un jour, on va travailler ensemble. Lui, il était comme, ah, OK. Je disais, un jour, surprends-toi pas si ton téléphone sonne, t'as reçu un courriel. Là, moi, je sais pas ce qu'on va faire, on va t'écrire une tonne, mais j'aimerais ça faire de quoi avec toi. Je trouvais qu'il n'y avait pas personne comme lui au Québec. Et puis là, quand j'ai dit, OK, il faut que je fasse un album, il faut que j'aille complètement ailleurs. Faut que je me réinvente, faut que j'aille plus loin, faut que je montre que des gens d'univers différents peuvent travailler ensemble. Moi, dans la vie, tu disais, ben toi, il y a une petite guerre qui perdure depuis un bout. Moi, dans la vie, quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, j'ai ça chialer. Parce qu'au Québec, on est des champions du monde du chiolage, on est des gérants d'estrade. C'est facile de chioler. Mais quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, change-le. Fais quelque chose. Chiole pas, fais quelque chose. Fait que moi, j'ai dit, je vais le faire. Je vais aller voir quelqu'un qui est le plus à l'opposé de moi. Donc, je suis allé voir Claude. Puis écoute, on a trippé. Puis je pense que j'ai fait le meilleur album de ma vie. Parce que j'ai réussi à garder mon essence, à garder mes textes, ma musique. J'ai signé tous les textes et les musiques. Puis j'ai mis des arrangements complètement différents, nouveaux, urbains, aériens. Il y a des sons de trap, de hip-hop là-dedans. Donc, c'est le meilleur de ce que je suis avec le meilleur de toute la nouveauté puis le côté très fresh, très fou de Claude Bégin. Puis je pense, il y a beaucoup de monde aussi qui m'ont dit que c'est mon meilleur album en carrière. Mon préféré, c'était mon troisième, Parole et musique, celui qui avait été ma femme, t'es la plus belle. Mais là, celui-là vient de l'accoter ou de peut-être même le surpasser, j'oserais dire.
Mais la ligne est mince parce qu'on veut garder notre public, des gens qui te suivent depuis le début, on veut pas les perdre, donc on veut pas arriver avec quelque chose de complètement différent, mais on veut ça aussi, donc il y a une ligne qui est mince, là, j'imagine. Tout le long du processus, il faut travailler fort pour garder le monde aussi.
Tout à fait. Le défi, et c'est exactement ce que tu dis, le défi, il est là. C'est que tu veux pas perdre ton monde, mais l'histoire a prouvé que les artistes qui se renouvellent pas assez ont tendance à s'effacer. C'est pas pour nommer, on nommera pas de nom, là, mais on en a plein d'idées de gens qui ont été des gros artistes, qui ont fait des grosses fêtes nationales que tu as vues partout. Et tranquillement, pas vite, on sait pas pourquoi ça s'efface, on les voit plus. Puis je me dis, c'est ça, il faut que tu te réinventes. Chaque artiste doit se réinventer. Quand tu es rendu à ton huitième album, Étienne Drapeau lance un huitième album. Ben oui, Étienne Drapeau, on connaît, on sait ce qu'il fait, il va le faire ci ou ça. Mais il faut que tu surprennes, il faut que tu arrives avec quelque chose. Et ça, c'était le pont. Donc, je suis passé de l'ancien aussi Étienne Drapeau qui faisait des ballades, des chansons plus folk, guitare-voix, à ce que le nouveau Étienne Drapeau fait. J'ai passé d'une rive à l'autre. Puis je pense que la prochaine... je suis allé dans le milieu du pont peut-être. Et je pense que le prochain album, je me permettrai justement d'aller complètement sur l'autre rive, d'aller encore plus loin, parce que j'ai aimé ça, faire ça, j'ai aimé être challengé, j'ai aimé mettre des arrangements, on a entendu le pont. Écoute, au début, il y a des criquettes, il y a des aurores boréales. Quand je dis les aurores boréales, on entend des sons aériens, électro, des choses que j'ai pas utilisées dans ma carrière, puis quand j'entendais ces arrangements-là, j'étais comme « wow, c'est donc bien cool ». Tu sais, ça, moi-même, ça me fait du bien, ça me renouvelle. J'entendais ma voix puis mes textes sur une musique tellement différente. Puis mes fans ont suivi, m'ont dit « Non, c'est cool, on embarque. » Il n'y a personne qui a été offusqué, il n'y a personne qui a dit « Mon Dieu, c'est donc bien spécial, fait qu'on touche du bois. »
Mais il y a un bout, il faut que tu t'abandonnes. Parce que tu es habitué à une zone de confort, entre guillemets. Ouais. Là, il faut faire confiance à Claude puis dire « J'y vais ou j'y vais pas, mais tu l'as engagé, fait que tu sais bien d'y faire confiance. »
Exact. Il y a une phrase dans la vie qui dit « Ta vie, elle commence à l'extérieur de ta zone de confort. » Ça, c'est la même chose pour les auteurs-compositeurs. On a nos patterns, on a nos façons de faire, on est tous conservateurs. Puis moi, en travaillant avec Claude, ce que j'ai dit, c'est que je dis jamais non. Si je pars, il m'envoie un arrangement, puis des fois, je te le cacherai pas, là, j'ai reçu des tunes, on discutait l'arrangement, il m'envoie quelque chose, puis la première fois que je l'écoutais, le pont, cette tune-là, c'est une balade. Il y a de mon côté, j'irai du... Tiens, tu sais, la guitare acoustique, moi, je vois ça comme une balade. L'arrangement, il m'envoie une couple d'affaires. Au début, le premier démo, je fais comme... Il y a des criquettes, il y a des sons, il y a des affaires. Je suis comme... Wow! Mais tu sais, j'étais pas toujours comme wow, genre, OK, wow! Des fois, c'était comme wow, attends un peu, faut que je prenne le temps. Puis quand... Tu laisses ton cerveau un peu, justement, tu laisses aller, t'écoutes, puis après ça, j'étais comme, mais c'est malade, c'est fou ce qu'il a fait. Puis Le Pont est devenu une de mes chansons préférées, puis c'est une des chansons préférées des gens sur l'album. Fait que oui, des fois, il faut t'aille ailleurs, hein, dans la vie, puis de rejoindre les gens au milieu du pont, là, c'est pas juste musicalement. Des fois, il y a des gens qui ont des idées contraires aux nôtres, puis on est rébarbatif, puis on est confrontatif. Au lieu de t'asseoir face à quelqu'un, des fois, quand t'es en conflit ou t'as pas la même opinion, assieds-toi donc à côté, puis regardons dans la même direction, puis on va jaser, puis on va trouver nos points en commun au lieu de se confronter, tu sais. Fait que ça se fait musicalement aussi, ça.
On me dit que Claude travaille rapidement et de façon efficace. L'as-tu senti, ça, ce côté-là?
Il travaille rapidement quand il travaille rapidement. Claude, c'est un gars tellement le fun, tellement relax. Moi, c'est l'album le plus facile que j'ai jamais fait. Les réalisateurs, je travaille avec des gros réalisateurs. Puis des réalisateurs, ça a leur ego, hein. Tu sais, quand il y a certains réalisateurs, je voulais changer une affaire. Ah ben là, Étienne, il n'y a jamais dans ma carrière de 35 ans quelqu'un qui m'a demandé. Claude, c'est n'a pas de trouble. Ah, ouais, tu veux genre, ouais, on n'a pas pensé à ça. Puis c'était simple. Ça a été simple, 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 simple. Mais quand il s'y met, c'est un gars qui est relax dans la vie, très relax, très cool. Fait que, tu sais, c'est comme... Quand il s'y met, par exemple, oui, il travaille très, très vite, puis il peut te pondre des arrangements en l'espace de quelques heures, puis ça va vite, mais c'est ça, c'est un gars qui est très relax dans la vie, mais c'est le fun, ça a été l'album le plus relax, le plus cool, le plus fun. On s'est jamais ostiné une fois. Puis ça, autant dans une vie de couple que dans une vie artistique, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu t'ostines pas, c'est le bonheur.
Pour Étienne, tu as été très présent sur les réseaux sociaux avec des performances pendant la pandémie. C'est important de garder ce contact-là puis de divertir les gens dans ce moment-là où il n'y avait rien, en fait, ou presque rien.
Absolument. Dans les débuts, là, le premier confinement, il n'y avait rien. C'était important pour moi. Je pense que c'était important puis ça faisait du bien pour les gens. J'ai fait les 8 premières semaines de la pandémie à tous les vendredis. Je prenais ça tellement au sérieux, c'était comme un vrai show pour moi. Là. Je me faisais un pacing, puis moi, dans mes vrais shows, 2 jours avant, je repasse mon show. Je fais jamais un show sans repasser mon show 1 heure, répéter mes interventions. Mon pacing était fait, je savais ce que j'allais dire en chaque tune. Je mettais ma caméra, puis tu sais, on a évolué là-dedans. Au début de la pandémie, on était tout nouveau avec les lives. La caméra partait à l'envers, le son. Écoute, c'était quelque chose, on a évolué. Mais oui, c'était important pour moi d'être présent. Et tu sais quoi, la pandémie m'a rapproché des gens. Parce que j'avais le temps avant, je m'occupais de mes réseaux, je m'obligeais à publier tous les jours, mais j'étais pas aussi proche, je répondais pas autant aux gens, j'étais pas en contact. Et le livre, le fait que, bon, la pandémie est arrivée, j'ai réalisé un rêve, j'ai dit « je vais écrire enfin mon livre », bien ça m'a donné un contact parce que j'ai décidé de créer ma boutique en ligne en même temps que le livre. Donc ça, la pandémie m'a amené ça de positif. J'ai pu enfin partir mon marketing web, ma vente en ligne, parce que je pense que c'est l'avenir et ça se passe beaucoup là. Puis j'ai pris avec ma conjointe, mais toutes les commandes, on prend tout ça. Puis c'est moi qui réponds à tout le monde. C'est des délais de livraison, tout ça. Puis là, les gens se sont mis à voir que c'est moi qui répondais, m'écrivaient leur histoire. Ton livre m'a tellement fait du bien parce que ça m'a touché. Moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. J'ai commencé à avoir plus de temps, donc j'ai répondu à plus de messages aussi sur mon Facebook. Donc vraiment, là, moi, ça m'a rapproché des gens. La pandémie, ça m'a permis d'être encore plus en contact de façon plus humaine, plus personnelle avec eux autres.
L'album, est-ce qu'il a été tout écrit pendant la pandémie?
Un petit peu avant. La La grande majorité de l'album était écrite avant la pandémie, mais on a commencé, on a fait la première chanson, La vie est faite pour s'aimer, on l'a terminé, puis là on avait une ou deux chansons en chantier, puis la pandémie a frappé. Fait que 6 mois après, quand c'était le temps de sortir un deuxième extrait qui a été Je chante pour eux, ben on s'est dit ça marche bien, c'est une des deux autres chansons qu'on avait faites, et ça dit, tu sais, ça parle de résilience, ça parle des gens qui ont bûché, qui croient encore à la vie, puis qui continuent à bûcher, puis qui s'en sortent. Donc on trouvait que ça marchait bien, mais il a fallu attendre le premier confinement. Donc on a passé à travers la pandémie. Après ça, on a travaillé beaucoup à distance. On enregistrait des choses à distance, on s'envoyait des choses, puis on a pu finaliser après ça, là, quand on a recommencé à avoir des libertés. Donc ça a été vraiment un album de pandémie, là. On avait une tonne seulement de fait. Ça a pris 1 an et demi le faire à travers tout ça. Puis c'est ça, on l'a terminé là, tout de suite après la pandémie, quand on a pu se retourner en studio.
Mais est-ce que c'est dur d'être inspiré en pandémie? Parce qu'évidemment, généralement, on s'inspire de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Toi, il y avait ton cocon à toi, mais en dehors de ça, il n'y avait pas de spectacle, tu ne rencontrais pas les gens. Bon, il y avait des discussions sur les réseaux sociaux, mais hors de ça, la vie était comme arrêtée.
Bien, c'est sûr que ça a été spécial comme expérience de faire un album en pandémie, mais heureusement, je pense que la grande majorité des textes de mes chansons avaient été écrits avant. Fait que ça, pour au moins toutes mes émotions, puis j'avais pas sorti un album en français depuis presque 5-6 ans, puis j'étais à une belle place dans ma vie, j'étais heureux, j'étais bien, j'ai jamais été en couple très longtemps dans ma vie, là, c'était pour la première fois de ma vie, à 40 ans, j'habitais avec ma conjointe, ce que j'ai jamais fait de toute ma vie, il était temps, j'allais finir ma vie de seul, ça continuait de même, mais là, je suis bien, j'ai ma petite maison, je suis pas riche, mais j'ai ma petite maison, je le dis de rêve, parce que moi, c'est pas du matériel qui me rend heureux dans la vie, mais j'ai tout ce que j'ai besoin dans la vie. Moi, tu me donnes 4 murs, une guitare, un piano, un crayon, un livre, je peux lire, je peux écrire, je suis bien, j'ai une famille, je suis en santé, tu sais. Fait que je suis une bonne place. J'ai écrit tout plein de belles chansons positives. D'ailleurs, l'album est très positif, très up-tempo. Ça, je voulais ça aussi. Il y a juste 2 ballades sur l'album. Puis c'est mes deux chansons les plus populaires sur Spotify, mais c'est pas les extraits radio, parce qu'en radio, il faut que ce soit hop la vie, hop tempo. On a lancé une tune qui s'appelle « Veux-tu faire ta vie avec moi? » Tout le monde a pensé que c'était la demande en mariage. J'ai niaisé un peu les gens avec ça. C'est la plus belle chanson d'amour que j'ai écrite dans ma vie. J'en ai écrit plusieurs belles, mais « Veux-tu faire ta vie avec moi? »
À chaque fois, c'était la plus belle que tu avais jamais écrite.
À chaque fois, c'était la plus belle, effectivement. J'en écrivais toujours une plus belle. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a plusieurs belles grandes chansons d'amour que j'ai écrites qui avait personne dans ma vie. Quand j'ai écrit « T'es ma femme, t'es la plus belle », il y avait personne dans ma vie. Donc, j'idéalisais l'amour. Alors que là, quand j'ai écrit « Veux-tu faire ta vie avec moi? » Je le vivais. Donc, c'est pour moi plus profond. Et il y a la chanson « Je serai là » qui est la seule autre ballade de l'album, qui est une chanson qui parle d'un sujet qui me tient beaucoup en cœur, qui est l'Alzheimer, et qui a été... J'ai décidé de lancer un vidéoclip comme ça en me disant « Je vais faire découvrir des tunes avec les réseaux. Hein. » Puis le jour de ma fête, j'ai le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est partager cette chanson-là sur l'Alzheimer. Et là, pendant la journée, 1000 partages, 2000 partages, 7000 partages. J'arrive dans l'après-midi, 22 000 partages. À la fin de la journée, j'avais 40 000 partages, 1 million d'écoutes en presque une journée. Les gens ont partagé ça, donc j'ai vu à quel point ça a touché. Donc j'ai été touché moi aussi de voir que mes chansons à texte, mes ballades, même si... Puis c'est correct, hein, de nos jours, la radio, on joue moins de ballades, puis c'est correct parce que c'est une heure, puis ça change, puis ça revient. Puis on se bat pas contre les époques, tu sais. Mais je vois que ces chansons-là touchent encore les gens, puis rejoignent encore les gens grâce au réseau, à Spotify et tout ça. Mais en soi, l'album est très up-tempo, très up la vie, rempli de bonheur, d'arrangements festifs. Je voulais ça en temps de pandémie. J'ai écrit un livre sur le bonheur, je voulais que l'album soit plein de bonheur. Fait que j'arrive avec plein de choses pour faire du bien aux gens dans un temps où on en a besoin. Là.
Pourquoi l'Alzheimer?
Parce que c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie il y a un petit moment. C'est encore très proche de moi, encore difficile d'en parler. Je reste, quand j'en parle, mais je reste toujours un petit peu évasif. Il y a eu longtemps où je me suis dit, je veux pas en écrire de tunes là-dessus. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça me fait encore quelque chose. J'ai énormément, je t'en parle. Puis j'essaye de pas trop rentrer dans le sujet dans ma tête. Puis quand je la chante, c'est terrible. Si je veux être capable de la chanter pour vrai, il faut presque que je décroche de la chanson. Il faut presque que je la chante. Normalement,
comme si c'était un cover.
Ouais, normalement tu chantes une chanson puis là tu te dis ok, là c'est comme un comédien, il faut que je rouvre la valve, il faut que je me mette, tu sais, je t'aimerais quand sur mes jours auront collé, là tu veux te donner, tu sais, mais celle-là faut que je fasse le contraire parce que sinon je suis pas capable de la chanter. Alors c'est quelque chose qui je voulais écrire pour me faire du bien à moi, c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie il y a quelques années, puis je me suis rendu compte que ça, en faisant des recherches, que l'Alzheimer touche 70% des gens de plus de 65 ans. Donc c'est 70% des gens qui vont vivre une forme d'Alzheimer ou de démence. Donc, c'est plus que le cancer. Le cancer est la plus grande cause de mortalité, tue 1 personne sur 2 au Québec, mais l'Alzheimer touche plus de gens. Alors, j'ai réalisé, OK, ça touche Tout le monde, presque 2 personnes sur 3 vont vivre ça, vont connaître ça. Donc, c'est peut-être ma chanson la plus touchante de ma vie que j'ai écrite. Ces 2 chansons-là, Veux-tu faire ta vie avec moi et Je serai là sur l'Alzheimer sont 2 de mes top chansons que j'ai écrites, je pense, dans ma vie.
Mais est-ce que c'est délicat quand on touche à un sujet comme celui-là? Parce que tu le dis, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Toi-même, il y a quelqu'un forcément que tu as l'air de connaître qui passe par là aussi. Donc, faut choisir les bons mots, faut faire du bien, se faire du bien aussi en l'écrivant. Il y a un côté thérapeutique à l'écriture.
Certainement.
Mais c'est super délicat à aborder comme sujet aussi.
Puis c'est d'essayer de trouver des mots qui sont justes et qui sont pas clichés, qui n'ont pas déjà été utilisés, ou pas de pas tomber dans les clichés, tu sais, d'écrire quelque chose qui fait du bien. Puis c'est ce que j'ai aimé, c'est que les gens, les réactions que j'ai eues, c'est que c'est comment tu as pu trouver les mots justes pour parler de quelque chose d'aussi terrible. Puis ça, c'est revenu beaucoup. Que la façon que tu as trouvé de l'imager, les mots que tu as utilisés, les gens m'ont beaucoup parlé de ça. À quel point c'était bien, c'était juste, c'était pas cliché, c'était pas trop. Parce que c'est très touché, là. C'est un sujet là, assez noir sur blanc. Là. Tu chantes une toune sur l'Alzheimer. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un sujet assez difficile à traiter. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis aussi fier de cette chanson-là. Puis j'ai essayé sur l'album de justement aller dans d'autres thèmes, d'autres choses. Je vais te faire une petite confidence. J'ai dit, j'arrête d'utiliser. Là, je me donne pas le droit quasiment d'utiliser le mot femme. Je me donne pas le droit d'utiliser genre t'es belle ou pas trop de je t'aime ou je t'aimerai ou je t'ai aimé. J'ai dit, faut que j'essaye d'aller ailleurs dans mon écriture. Donc, au niveau du son, au niveau des arrangements, au niveau des textes, j'ai écrit des textes sur l'Alzheimer. J'ai écrit un texte comme Combien tu veux, qui était une critique de notre société où tout s'achète, tout a un prix, puis on pense que le bonheur, on va le trouver dans les choses matérielles. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Cuba Libre, qui est pas une chanson latine, mais qui parle de la situation politique, économique et sociale à Cuba. Parce que moi, parlant espagnol, et j'ai été faire des tournées à Cuba, j'ai vu comment les gens vivent là-bas. Et oui, il y a eu la révolution, oui, les gens ont la liberté, mais à quel prix?
Ouais.
Quand on va dans les resorts, on pense que c'est beau, Cuba, c'est juste les plages.
Ouais, mais il y a un décor en dehors du resort.
Mais il y a d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Puis quand tu parles aux gens, tu te rends compte qu'il y a des difficultés, puis que les gens, il y a une tristesse ambiante quand même. Et c'est à la fois un hommage au peuple cubain que je trouve extraordinaire, mais aussi c'est parler, ben, c'est quoi cette liberté-là qu'ils ont gagnée. Puis les Cubains, ils cherchent une nouvelle liberté après toutes ces années-là sous le régime Castro. En tout cas, bref, je veux montrer qu'Étienne Drapeau, c'est pas juste des chansons d'amour. Il y a des chansons à texte, il y a des chansons touchantes, il y a des critiques sociales. Je suis peut-être un artiste pop, mais ma démarche est aussi profonde, puis je prends autant de temps, à créer mes textes puis à écrire des textes de qualité que n'importe qui d'autre qui est considéré un artiste peut-être un peu plus intellectuel, disons-le comme ça.
Étienne, tu as écrit un mot à Olivier Faubert, le premier académicien qui s'est fait éliminer cette année parce que tu as été le premier éliminé de ta gang. C'est important pour toi de faire ça?
Oui, c'était important parce que je savais exactement ce que ce jeune homme-là vivait et ce qu'il était en train de vivre. Et moi, quand ça m'est arrivé en 2004, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui avait vécu ça 17 ans avant puis qui m'écrit, il me dit « Hey, le jeune, stresse-toi même pas, là, je sais que tu dois capoter, être le premier éliminé, là, mais regarde où je suis rendu, moi, tu sais. » Moi, j'ai écrit à Olivier, regarde, là, je sors mon 8e album. Là. J'ai donné des spectacles partout dans le monde, à Cuba, en Argentine, en République dominicaine. Comme porte-parole de Sainte-Justine, j'ai donné des shows, puis je suis allé en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc. Écoute, il y a une carrière. J'ai chanté à l'Olympique de Paris, j'ai fait de la comédie musicale. Donc, tu sais, ce qui vient de t'arriver, puis en plus, dans la chanson qui est interprétée de Fred Pellerin, ça parle de la fin d'un rêve ou tout ça. Puis j'ai dit, c'est loin d'être la fin de leur rêve, c'est le début de ton rêve. C'est pas un échec que tu as vécu aujourd'hui, c'est juste une première étape. Tu viens de mettre le pied dans le showbiz, donc fais-toi-en pas. Ça commence ton affaire aujourd'hui. C'est une chance que tu as eue, t'as rien perdu, tu sais. Puis il était très content, il était très touché. Il m'a écrit, j'ai publié, puis 5 minutes après, il m'écrivait, puis il me disait, man, il dit, t'es tellement fin, c'est incroyable ce que t'as écrit. Ça te dérangerait-tu qu'on se parle, tu sais, je pourrais-tu t'appeler? Hey, écoute, avec plaisir, mon gars, quand tu veux. Tu m'as appelé, on a parlé pendant 1 heure, j'y ai donné tout plein de conseils. J'ai dit, mon téléphone, comme Roger Tabra m'avait dit à moi, à l'époque, puis je pense que c'est un des seuls qui avait été travaillé avec Roger Tabra, puis on a écrit « Je ne l'ai jamais dit à personne », qui est devenu mon premier hit. J'ai dit « Tu m'appelles quand tu veux. Mon téléphone, il est là, tu m'appelles, tu as des questions. » Il ne connaissait pas beaucoup ce qui est de la promo radio, comment lancer un extrait, etc. Quand on rentre dans le milieu, on ne connaît pas ça. Lui, ce gars-là, il travaille dans un bar, tu sais. Je veux dire, on commence dans le milieu, on ne connaît pas tous les rouages, on ne connaît pas tant les relations de presse. On pense que les jeunes connaissent tous ça aujourd'hui parce que, bon, ils se publient sur Instagram, ils sont plus présents que nous, on l'était à l'époque parce qu'ils ont des outils. Mais c'est dur, le showbiz, là, quand tu rentres là-dedans.
Ouais.
Sauf que maintenant, on est tous des autoproducteurs. 90% de toutes les nouvelles chansons qui sont produites, c'est de l'autoproduction, c'est des artistes qui se produisent tout seuls. À l'époque, moi, à 17 ans, j'étais le seul. Quand j'ai dit « moi, je produis mon propre album, je mets mon argent », j'étais à l'encontre de tout le showbiz. Il n'y avait aucun artiste autoproducteur. C'était toutes des grosses compagnies de disques. Si tu ne te faisais pas signer par une compagnie de disques, tu n'avais pas de carrière. T'sais.
Mais il y avait une raison à ça. C'est parce que les bourses et les subventions, c'est aux grosses compagnies de disques qui vont.
Et c'est presque encore ça.
Au début, c'est ben encore oui, ça un ben peu, oui. Le système j'ai payé, comme ça. Oh,
j'ai payé de ma poche. Puis même mon troisième album, j'en ai parlé récemment, j'ai hypothéqué ma maison pour payer mon troisième album. J'ai pris tout l'argent que j'avais mis sur ma maison et je l'ai payé. Là, la musique, au moins, elle est démocratisée. Avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, n'importe quel jeune qui a du talent n'a pas besoin d'être signé. Il se met Roxane Bruno, elle s'est mise sur YouTube, elle s'est fait connaître autant par l'humour, par ses chansons, elle s'est fait un following de 100 000 personnes, 200 000, elle n'avait même pas encore un album. Mm-hmm. Donc ça n'a pas juste du mauvais. T'sais. Donc, je pense que les réseaux sociaux, l'Internet, ça a démocratisé la musique. Ça fait que tout le monde a une chance de pouvoir percer si on fait les bonnes affaires. Tu dépends moins des grosses compagnies de disques. Et la preuve, c'est qu'il y en a de moins en moins des compagnies de disques.
Là. Mais tu dépends des algorithmes.
Il n'y a rien qui est parfait. Y a
parce
pas
que
système.
Les plateformes de streaming vont te suggérer des trucs qui ressemblent à ce que tu écoutes déjà.
Exactement.
Donc, tu ne découvres pas vraiment d'autres choses, tu fais pas l'effort de le faire.
Effectivement, et c'est beaucoup moins payant. À l'époque, un jeune artiste qui arrivait, il pouvait connaître du succès, il pouvait gagner sa vie à faire des disques. Aujourd'hui, tu ne gagneras pas ta vie avec du streaming, tu ne gagneras pas ta vie à faire du YouTube. Il va falloir que tu en fasses en maudit et que tu en aies des views. T'sais. Fait que tu sais, chaque époque a ses avantages, chaque époque a ses défis, chaque époque a ses défauts. Il faut juste évoluer. On ne peut pas se battre. Tu ne peux pas nager contre le courant. Tu peux si tu veux nager contre le courant toute ta vie. Mais il y a des changements comme ça. Puis moi, je suis un gars positif. Donc à chaque époque, là, il y a la pandémie. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On se réinvente. Il y a beaucoup d'artistes qui disent, ben là, on va se réinventer. Je te dis pas d'aller travailler au dépanneur. Je te dis pas de te mettre à devenir d'autres choses que ce que tu n'es pas. Mais tu n'as pas le choix. On est là, il faut continuer. Ouais. Donc, c'est ça. Je trouvais ça important. Puis le jeune homme, j'ai dit, ben écoute, là, il va faire un démo. J'ai dit, réécris-moi, renvoie-moi tes trucs, je vais t'aider. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. J'ai produit des albums, mais j'ai fait de la comédie musicale. Je te disais, j'ai touché à presque tous les dossiers dans le domaine artistique. Donc, si je pouvais donner un coup de main. Puis dans la vie, c'est le fun. T'sais, c'est le fun de faire plaisir aux gens. C'est le fun à aider les autres. Ça revient un peu à le pont, hein. faut bâtir des ponts quand on peut aider les autres, si on peut travailler ensemble. Dans la culture latine, ça se fait énormément ça, hein. Tu vois beaucoup de duos. Ça m'en est un duo entre J-Lo, Enrique Iglesias puis Ricky Martin, sont quatre dans la même tune, puis ils s'entraident beaucoup, ils font beaucoup de duos ensemble, beaucoup de choses qu'au Québec, on dirait qu'on a notre petite chance gardée, puis tu sais, il faut pas trop collaborer parce que c'est tellement difficile d'avoir notre place que si on aide un autre, on risque de perdre notre place, alors que si on se mettait ensemble, puis qu'on faisait plein de projets ensemble, puis qu'on s'aidait plus, on serait bien plus big, tu sais, on aurait bien plus d'exposure, puis on pourrait faire des plus belles choses peut-être.
T'as une hanche neuve?
Hey, oui, puis ça va bien à tabarouette.
Est-ce que c'est une blessure de hockey?
Oui, c'est ma troisième opération. En fait, rendu à troisième
Donc,
opération.
De l'époque où tu jouais junior, c'est une blessure qui date de là?
Première blessure dans ce coin-là, j'ai eu une déchirure complète de laine à 19 ans. C'est ce qui a mis fin en grande partie à ma carrière. J'en parle dans mon livre. Après avoir été repêché par le Canadien de Montréal, ça m'a ralenti hallucinamment. J'étais un excellent joueur de hockey. J'avais été le premier choix de toute la Ligue junior majeure du Québec. Et là, à 20 ans, paf, grosse blessure, mais je vois ma vie finir. Là, je suis comme... Alors là, j'ai eu la bonne idée de commencer à me battre. J'ai dit, vu que j'ai ralenti, mon coup de patin était moins bon, j'étais blessé, j'ai eu une reconstruction de laine qui m'a pris un an sans jouer au hockey, puis après ça, je tombe pro. Fait que j'ai dit, que je vais faire pour me démarquer? Bien, je vais jouer physique, je vais jouer tough, je vais me battre. Mauvaise idée.
Dans ce pays.
C'était pas une très bonne idée. J'étais pas heureux là-dedans. Et après ça, au début de la trentaine, c'était encore fini ma hanche. J'étais plus capable de jouer au hockey. J'étais plus capable de faire mon sport. Ils m'ont opéré une première fois. Ils ont tout arrangé ça. Une deuxième fois, pardon. Puis là, l'été dernier, je sors d'une game de hockey pour le fun. Ligue de garage. On s'entend. Là. J'étais pas, tu sais, je veux dire, plus capable de marcher. J'arrive dans le stationnement. Je marche plus, ça marche, la hanche, elle avance plus. J'arrive, je m'en allais après ma game de hockey me faire couper les cheveux, j'arrive dans le salon de coiffeur, les filles me voient, je suis là, j'arrive, demain, toutes les filles sortent, ben voyons, Étienne, ça va-tu, ils m'aident. Et puis, écoute, ma blonde est obligée d'aller aux Jean Coutu me chercher une canne. Pendant une semaine, je marchais avec une canne. Là, je capotais. Là, je pouvais. Là, c'était comme plus juste le sport. Là. C'est toute ma vie. Là. C'est
oui, je fais des shows, toi, ben oui.
Fait que je suis allé consulter, puis là, finalement, ils m'ont changé ça. Fait que là, j'ai une hanche neuve. La vie est belle, j'étais en pleine forme, j'ai jamais été aussi en forme, là, j'ai 43 ans, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai guéri, j'avais des problèmes d'épaule guéri, mon épaule guéri, ma hanche. Écoute, ça va bien, la pandémie finit, là. Ça s'en vient.
Étienne, l'automne dernier, tu as décidé de lancer un livre, une idée qui t'habite depuis longtemps, Star Academy, tu avais déjà commencé à écrire un bout de projet, de début de livre. Comment il est né, le livre? Évidemment, en pandémie, tu avais le temps.
Effectivement. Effectivement, j'avais commencé à écrire un livre au moment où je suis rentré à Star Academy. Je l'ai toujours, ça s'appelle « Journal d'un académicien ». Et j'avais commencé 33 jours avant l'académie. Je voulais parler de ma philosophie. J'étais jeune, j'avais 26 ans. Puis moi, j'avais toujours eu cette philosophie-là axée sur la psychologie positive, le bonheur, la gratitude, faire une différence dans le monde par les petits gestes. Et je m'étais dit « là, je vais être connu, puis je m'en vais faire Star Academy ». Donc j'ai commencé et à tous les jours, je me suis donné cette discipline-là, 33 jours, 32 jours. Et puis je m'étais rendu jusqu'à Star Academy. Puis après, je ne l'ai pas publié. Une autre fois, au début de la trentaine, quand j'ai écrit Le Monde est beau, l'album Le Monde est beau, là, j'ai écrit un livre, j'ai commencé, le livre s'appelait Le Monde est beau. Et là, c'était toute ma philosophie de la vie, beaucoup axée sur l'humanitaire. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de voyages en Afrique, en République dominicaine. Ça n'a pas abouti. J'avais 10 000 mots. Là. J'avais quand même pas mal de stock. Puis là, quand la pandémie est arrivée, j'ai dit là, c'est le temps ou jamais. Écoute, j'ai rien d'autre. Là. Tout est annulé. Tous mes choix avaient été annulés tout l'été. Puis là, je me suis lancé là-dedans. Puis j'ai dit, je veux léguer ça. J'ai toujours voulu faire du bien. Puis moi, dans ma vie, j'ai trouvé une façon de vivre, une philosophie, une façon de vivre puis de voir la vie qui, pour moi, fonctionne, qui me permet pour moi de me dire à tous les jours de ma vie, je suis heureux. Je me lève le matin, je me dis, je suis heureux. Je me couche le soir, je me dis, je suis heureux. Puis je me dis, là, les gens restent bêtes des fois. Moi, je suis une des personnes les plus heureuses au monde. Là. Aux Olympiques, là, s'il y a un podium pour les personnes les plus heureuses au monde, je suis sur le podium. Puis là, des fois, les gens, je sais qu'ils entendent ça, ils font « Hey, là, regarde, lui. » Parce que des fois, du monde trop heureux, là, ça
tape ses nerfs.
Ça tape ses nerfs. Mais tout le monde peut être sur ce podium-là. Tout le monde peut être sur le podium. C'est un choix. Moi, je le dis dans ce livre-là, le bonheur, c'est un choix. C'est une façon de vivre et de voir la vie. Le bonheur, c'est pas un état d'âme. C'est pas une émotion. C'est une décision qu'on prend. Puis c'est une façon de vivre à tous les jours dans sa vie. Puis on base toute sa vie autour de ça, puis de ses choix, puis de sa façon de voir la vie. Puis c'est ce que j'ai voulu donner. Puis ce que je fais dans le livre, c'est que je l'ai appelé Faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux. Je donne 20 chapitres, 160 quelques pages de trucs, de conseils, de tout ce qui, moi, m'a servi dans ma vie, que j'ai développé, les trucs, les exercices, les façons de penser, les façons de dialoguer des fois. Parce que dans les mots qu'on utilise, dans nos méthodes de conversation avec les autres, il y a une énorme façon de trouver le bonheur dans notre façon de dialoguer, dans notre façon d'être. Donc, c'est tout ça que je donne dans ce livre-là, puis j'en suis très fier. Tu sais, je me dis un jour, si jamais j'ai des enfants, tu sais, c'est comme toute ma vie, c'est tout ce que je suis, toute ma philosophie. Puis à 43 ans, je l'assumais d'écrire quelque chose comme ça. À 27 ans, écrire de quoi de même, les gens auraient pu dire « Hey, mais tu sais, j'ai voyagé dans une vingtaine de pays à travers le monde, j'ai fait de l'humanitaire, j'ai été un ex-joueur de hockey professionnel, j'ai fait des tournées, tu sais, je veux dire, j'ai un petit peu de vécu pour à côté ce que je dis. » Puis écoute, on a vendu près de 6000 copies déjà. Je suis mon propre éditeur, hein, j'ai pas une grosse maison d'édition, puis on est rendu presque à 6000 copies, donc je suis pas mal fier de ce bel accomplissement-là dans ma vie.
Est-ce que c'est délicat quand on écrit là-dessus? Parce que tu l'as dit, on veut pas avoir l'air prétentieux non plus de dire « moi j'ai compris, pas vous autres ». Est-ce que le choix des mots est encore plus délicat?
Oui, parce que quand tu dis aux gens, parce qu'on va appeler ça du développement personnel, tu dis aux gens « t'écris un livre de développement personnel ». Hey, les gens, là, c'est comme je. Il y en a même qui me l'ont avoué, qui m'ont dit hey, là, Étienne Drapeau, là, vas-tu me dire comment vivre ma vie? Oh, il est-tu rendu coach de vie, là, lui, là? Puis il y a des gens qui m'ont dit, moi, je pensais un peu ça, mais je l'ai acheté, puis je l'ai lu pareil, puis j'ai fait wow, ça m'a tellement fait du bien, ce que j'ai lu là-dedans. J'ai tellement appris de choses. Puis jusqu'à un certain point, hier, j'ai fait ma première conférence, parce que je vais commencer à donner des conférences. Puis je veux démocratiser le bonheur. On est gêné de dire qu'on est heureux. On est gêné. Si tu dis que tu es une personne des plus heureuses au monde, si Elon Musk arrive en entrevue et dit « Ah, Forbes, l'année passée, m'a nommé comme la personne la plus riche au monde », tout le monde va faire « Ben oui, tu sais, c'est vrai, c'est la personne la plus riche. » Mais va dire que tu es une des personnes les plus heureuses au monde. Moi, je suis heureux en tabarouette dans la vie. Puis ça, les gens, ça les choque des fois un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on recherche tout le bonheur. C'est le sens et le but de la vie. Ultimement, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour atteindre le bonheur. Fait que quand on voit des gens, des fois, qui l'ont, là, tu sais, on est comme, ben pourquoi lui, il l'a, puis pas moi, tu sais? Fait que c'est. En tout cas, je pourrais t'en parler longtemps, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis fier, puis que je le sais fondamentalement que ce livre-là peut faire du bien aux gens. Puis les aider dans leur vie, puis leur faire du bien, particulièrement dans une période de pandémie. Donc, les gens sont libres d'y croire ou de pas y croire, ou de le lire ou de pas le lire, mais je vous garantis que si les gens le lisent, ça va faire une différence dans votre quotidien.
Est-ce que la pandémie a affecté ton niveau de bonheur, justement?
Pas beaucoup.
Parce que toi, tu avais des trucs internationaux qui se dessinaient, là, il y avait...
Ouais, à ce niveau-là. Écoute, j'ai été chanceux d'avoir cette philosophie-là, puis d'avoir 43 ans pour la pandémie.
Ça aurait été une solide...
Ça aurait été tough. Ça aurait été tough parce que je peux comprendre, les artistes à la base sont des gens beaucoup plus fragiles, émotivement, oui, ben, psychologiquement.
C'est pour ça que c'est des artistes.
Ben, exactement.
Oui, ils écrivent des tonnes.
C'est pas tout le monde dans la vie qui était outillé pour affronter ça. Je dis pas là, moi que je suis le bon Dieu du monde puis je suis outillé, mais j'ai écrit un livre sur le bonheur. Ça m'a aidé énormément pour être heureux pendant la pandémie, parce que j'étais là-dedans tous les jours. Donc, je vivais dans mes propres principes. J'avais un projet. Mais moi, la plus grosse perte que j'ai eue, trois jours avant que la pandémie commence, avant qu'on entende le bateau de croisière, mon premier single est lancé aux États-Unis. Premier single, j'ai fait des années que je cherche une équipe pour me représenter. Je trouve enfin une équipe de promo radio à New York qui s'intéresse à mon projet. Je trouve une équipe de relations de presse. Pardon. La bouffe est bonne en maudit, le bouffe tu fais, mais
on la digère.
Et là, je trouve une équipe de relations de presse à Miami qui veut s'occuper de mon projet. Donc, on a une stratégie. Je lance le premier single. Les femmes que j'ai aimées, Las Mujeres que Amé. Trois jours après, écoute, le single est parti, on entend, la pandémie passe, cinq jours après, tout est fermé. Moi, j'ai une tournée de relations de presse d'une semaine qui est bookée, qui est prévue au mois de mai à Miami. J'allais faire, tu sais, Despierta America, tous les gens, le salut, bonjour, en espagnol, vu par 50 millions de personnes, là. J'étais rendu là, tu sais. Puis là, tout ça tombe à l'eau, tu sais. Mais la toune est montée, puis s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est bien toi, la toune est montée en 60e position dans le palmarès BDS aux États-Unis.
Ouais.
Ça veut dire que c'était... Bon, les gens peuvent dire, ben 60, c'est pas beaucoup, mais même au Québec...
Hein, aux États-Unis. Il y a de la toune en tabarouette là.
Ben, c'est ça. Puis il y a un artiste au Québec qui rentre, un nouvel artiste. Puis sa première chanson qu'il lance, il fait un top 60. C'est énorme. Juste rentrer dans le top 100, c'est beaucoup. Donc là, c'était parti. Et là, ben, là c'est ça. C'est le plus gros coup dur que j'ai eu, perte d'argent. Et là, on attend. Ben, quand les frontières vont réouvrir, est-ce que je vais avoir encore le momentum? Mais je veux continuer à aller vers l'international, même que j'ai l'Europe dans ma mire. On travaille encore là-dessus. Donc, j'ai pas dit mon dernier mot pour le côté latin et pour la France encore moins, je te dirais.
Un livre, c'est quelque chose d'actif pour les gens qui l'achètent. La musique, on peut écouter ça en faisant autre chose. La télé, même chose. Un livre, t'as pas le choix. T'arrêtes et tu lis ce qui se passe devant toi. Est-ce que c'est un cadeau que les gens te font d'arrêter leur vie pour lire tes mots?
Ben, je trouve ça bien, j'aime ça comme tu... J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que la musique, on l'écoute souvent en faisant plein d'autres choses. Puis je dirais, les gens, c'est un cadeau qui... Oui, c'est une belle façon. T'es poète, hein, Luc.
Merci.
T'as déjà pensé écrire un livre ou des chansons? Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit tantôt. On en reparlera. Ben, je suis en train de te voler tes scoops. Non, c'est un beau cadeau que les gens se font... À eux-mêmes aussi d'arrêter. C'est un beau cadeau qu'ils me font à moi, certainement.
Bien, oui,
mais
oui,
à eux-mêmes, parce que parfois, dans nos vies tellement effrénées que nos horaires chaotiques, quand j'imagine t'en sais quelque chose, le travail, les enfants, je sais même pas comment vous faites, moi j'en ai pas, là, mais tu sais, je veux dire, le soccer, les devoirs, les ci, les ça. À un moment donné, les gens se retrouvent un petit peu épuisés, fatigués, désorientés dans leur propre vie, tu sais. À un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, ben là, attends un peu, là. Qu'est-ce que je fais pour moi? Là? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quand est-ce que je prends du temps pour moi? Puis j'ai inventé une règle du 5% qui dit que tout le monde devrait prendre 5% de sa vie pour faire des affaires juste pour toi. Dans une journée, tu fais tellement d'affaires. Tu travailles 8 heures pour ton employeur, tu travailles tes enfants, mais quand est-ce que tu prends du temps pour toi? Donc, prendre le temps de s'asseoir, de lire, tu sais, c'est quelque chose que tu fais pour toi. Puis si tu prends un livre de développement personnel qui parle du bonheur, qui te donne des trucs, bien là, c'est encore plus pour toi, tu sais. Fait que ça, je trouve ça important de s'arrêter, puis dans le livre, j'en parle, c'est de faire ta recette de sucre à la crème du bonheur. Parce qu'il y a un grand penseur qui a dit un jour, le bonheur,
c'est bonheur, comme le sucre à la crème, si t'en veux, tu t'en fais.
Voilà. Tu sais-tu qui a dit ça, Luc?
C'est ben, je me souviens plus, mais c'est pas Étienne Drapeau, en tout cas.
Non, c'est pas moi, mais dans mes conférences, je le demande, puis honnêtement, il n'y a pas grand monde qui le sait. C'est Félix Leclerc.
Okay.
Félix Leclerc a dit ça, fait qu'après ça, je dis, ben garde, ta recette du sucre à la crème du bonheur, faut que tu te la crées. Fait que trouve les 5 ingrédients, qu'est-ce que tu peux faire à tous les jours dans ta vie qui ne coûte rien. Dis-moi pas un condo au Bahamas, là, puis tu sais, non, mais trouve 5 choses simples qui ne coûtent rien que tu peux faire dans ta vie, que tu répètes, ça va devenir ton sucre à la crème du bonheur. Puis tu fais ça 21 jours, ça devient une habitude, ça devient un mode de vie. Etc. J'aime ça parler de ça. Je suis crinqué, ben, j'ai fait ma première conférence sur Zoom hier. J'ai été obligé de parler pendant une heure de mon livre, puis de mes principes, puis de mes trucs. Fait que là, des fois, il faut que je m'arrête, puis je me dis je pourrais en parler pendant une heure.
Étienne, j'imagine que le désir avec les déconfinements des salles de spectacle, c'est de partir sur la route avec tes nouvelles chansons.
Ben écoute, je suis pas mal content parce que enfin, je vais jouer de la musique sur une scène, je vais voir du monde après un an. J'ai eu plusieurs shows qui ont été annulés. Dans les dernières semaines, j'en avais 4-5, parce qu'au début, mon album devait sortir début mars. Puis là, je viens juste, ça fait quelques jours à peine de me faire confirmer que je vais être en spectacle à Québec
et à Montréal.
Donc, les deux premiers qui n'ont pas été annulés, c'est le fun, parce que c'était un mois après la sortie de mon album, c'était ma première à Québec et Montréal. Donc, le vendredi 2, je suis à la salle Désilets à Montréal.
T'es où, la salle des Îlets? Je connais même pas
c'est
ça.
C'est une belle petite salle à Montréal que je connaissais pas, moi non plus, qui est assez grande. C'est dans un dans une école, une superbe salle. J'essaie de trouver le quartier, mais je connais tellement pas mon Montréal.
Les gens iront visiter ton site internet.
Et puis le lendemain, on est à Québec, le 3, au Centre d'art La Chapelle à Québec, une salle que je fais deux fois par année à Québec. Donc au moins, le Québec-Montréal va être couvert. Puis là, après ça, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe là, pour toutes les autres. Mais crime, c'est le fun. On va refaire des shows. C'est vraiment cool.
Est-ce que ça devient difficile de faire le choix des chansons? 8 disques, quelques chansons qui ont joué à la radio, une ou deux en tout cas.
Oui, quelques-unes.
Écoute, plus, là, t'as envie de jouer ceux-là, évidemment.
Ben, je te dirais que je vais faire les 10 tunes de l'album Le Pont parce que je les aime trop, parce que j'ai été quand même longtemps sans sortir un album là, récemment en français. Fait que c'est celle-là. Les 10 sont obligés. J'ai cherché un concept, j'ai fouillé, j'ai trouvé, je voulais dire à qu'on fait deux nouvelles tunes, deux anciennes. Je cherchais une ligne directrice, puis à un moment donné, m'est venu un flash que j'ai trouvé fort. J'ai dit, écoute, ça s'appelle Le Pont. Hein?
Puis
le
alors,
pont,
tu vas faire le pont entre les anciennes et les nouvelles chansons?
Hey, toi, on peut rien te cacher. Tu m'impressionneras toujours, Luc de Donco. Écoute, j'ai dit, je vais faire le pont. Il y a un fossé, il y a une rive, il y a deux rives. Il y a les nouvelles chansons, il y a le pont, puis il y a les plus vieilles. Fait que de tous les bars que je les remettais pour faire deux fois 45 minutes, je me dis, on commence, on fait l'album Le Pont. On fait la première rive. On revient de ce bas-ci de la rive, puis après ça, on retourne de l'autre côté de la rive où c'était tous mes classiques. Fait que c'était écœurant parce qu'on reste dans les mêmes arrangements. On fait toutes les chansons de l'album Le Pont, tous les nouveaux arrangements, toute la nouvelle vibe. Arrive la deuxième partie, on fait tous les hits. Fait que là, en deuxième partie, c'est toutes les chansons que le monde connaît. Et comme les chansons sont plus up-tempo en premier, ben ça passe super vite. Puis là, la deuxième, on tombe dans les hits. C'est mon but, en tout cas pour l'instant, mais là, on fait des shows de 60 minutes. Fait que là, c'est l'album, ça va être toutes les chansons de Le Pont plus mes 4-5 plus gros hits, donc ça va faire un show vraiment quand même cool.
Vas-tu un peu modifier les classiques ou tu vas les garder comme elles étaient? Parce que là, il y a eu l'influence Claude Bégin. Est-ce que tu vas amener ça un peu dans les classiques ou t'es du genre, on touche pas à ça parce que les gens les ont connus comme ça?
Ben, c'est une très bonne question parce que c'est une question que je me suis soulevée moi-même parce que là, tu écoutes toutes les nouvelles tunes, puis là, tu réécoutes les arrangements des vieilles tunes, puis ça fait quand même 17 ans de carrière, là, tu sais, ça traduit mon âge, mais à un moment donné, c'est que des arrangements qui, c'est pas qu'ils vieillissent mal, ils vieillissent bien, les arrangements, parce qu'ils sont assez simples, mais quand tu les écoutes comparé à toutes les nouvelles sonorités, mais là, tu fais, mettons, si tu utilisais des tracks sonores un peu derrière, là, ce qu'on appelle des séquences, mais là, ça, c'est, t'es ma femme, on est loin des nouvelles tunes réalisées par Claude Bégin, fait que ça, c'est ça que je vais voir. Là. Est-ce que je vais aller seulement acoustique puis rester très, très roots, très folk, très acoustique, comme ça, toutes les chansons se ressemblent plus? Ou je vais mettre un peu de séquence en arrière pour que ça sonne nouveau, mais là, c'est les plus vieilles chansons qui sont plus dures à passer. Fait qu'écoute, au pire, si tu as une idée là-dessus, tu m'appelles, tu m'envoies un courriel, on regarde ça ensemble parce que là, je suis encore là-dedans. Là.
Mais en même temps, on a tous vu des shows où les artistes ont deux tonnes puis ça nous a tapé ses nerfs.
Moi, je suis pas fort sur l'idée de modifier des tunes ou des arrangements. Alors, c'est pour ça que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de faire le pont en premier, d'avoir les nouveaux sons, l'arrangement.
Il y a une séparation concrète entre les deux, fait que ça marche.
Ben, merci.
C'est comme deux bulles, deux univers.
Donc, tu me le confirmes, c'est ça, aujourd'hui?
Oui, confirmes. Ben, tu sépares ça, fait que si t'es blendé ensemble, discussion artistique.
Ben non, mais c'est vrai parce que
si t'es blendé ensemble, ça marcherait peut-être pas.
Tu sais, je faisais deux nouvelles tunes, deux anciennes, deux nouvelles, puis j'étais comme, wow, ça s'en va un peu, là, tu sais. Fait que oui, je pense qu'en les séparant, puis l'album s'appelle Le Pont, fait que j'étais comme, pour la première fois de ma vie, j'avais de la difficulté à trouver une mise en scène, une ligne directrice, un concept à mon show.
Ben dans le titre.
Puis là, j'ai fait, ben je l'ai mon concept, Le Pont. Il y a deux rives. Tu fais les deux, c'est parfait, puis c'est merci, bonsoir. Donc, je pense que ça va être ça, mais là, pour l'instant, c'est des shows de 60 minutes. Donc, on va faire l'essentiel de l'album et 4 ou 5 gros, gros classiques là, mes plus connus.
Étienne, merci beaucoup d'avoir été là.
C'est pas déjà fini.
Hein, ouais.
Hey, on n'a même pas eu le temps de manger notre dessert encore.
Vous mangez dans le char.
Bon, ben parfait.
Hey, pas tout conduit en plus.
Non, mais tu peux le manger, c'est pareil. Ben écoute, ça a été, on le disait, hors
d'ordre. Si on veut te suivre sur le web.
Oui.
Tous les détails sont là pour tes shows qui vont t'annoncer.
Effectivement, etiennedrapeau.ca, les gens peuvent commander leur album et leur livre dédicacé sur ma boutique en ligne. Je fais des shows sur le web à tous les mois, c'est 7,99$, je fais des shows. Puis sinon, ben, on voit toutes mes dates de spectacle sur mon site web, puis évidemment Facebook, Instagram, YouTube, etc.
Merci.
Ben, merci à toi, Luc, c'est toujours un plaisir et félicitations encore pour ton t'es prix, fin. Ta merci. Reconnaissance, ton troisième en carrière, je crois.
Ouais.
Très bien mérité, ça va une bonne personne en plus. Tout est merveilleux,
merci.
Dans le meilleur des bons.
Merci beaucoup.